3D aujourd'hui. Alors 3D, pas en trois dimensions, mais les 3D, c'est pour découvrir Dieu différemment. Alors j'ai choisi comme titre, pour ces cultes en 3D, pour ces trois cultes en 3D, le titre d'un film qui est sorti en 2007 et qui s'appelle « Les promesses de l'ombre ». Avec Viggo Mortensen, avec Naomi Watts, et puis avec un Frenchie aussi, Vincent Cassel. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, je ne vais pas vous le raconter, c'est une histoire de mafia russe à Londres, un petit peu violent, mais quand même pas mal fait. Mais j'ai été interpellé par son titre, « Les promesses de l'ombre ». Les promesses qui sont un peu vides, les promesses qui procurent de l'ombre, du noir, des promesses non tenues. Et ce matin, j'aimerais parler d'une de ces promesses de l'ombre. C'est la promesse de l'amour ou le mirage de l'amour. Et pour en parler, je passe par Édith Piaf. Alors ça date un peu, Édith Piaf, elle est décédée en 1963. Vous savez où elle est décédée ? À Grasse. Oui, plusieurs le savent, vous connaissez votre histoire. Et donc en 49, elle a composé un chant et elle l'a chanté aussi pour son amoureux de l'époque, Marcel Cerdan, champion du monde de boxe en poids moyen. Et ce chant, c'était l'hymne à l'amour. Et quand on lit ces paroles, le ciel bleu sur nous peut s'effondrer, la terre peut bien s'écrouler, peu m'importe si tu m'aimes. Je me fous du monde entier tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains. Alors on se dit, c'est beau, et on est frappé par la force de ces paroles, par la passion qu'animait ce petit bout de femme d'1m47. Mais en même temps, c'est beau, mais ça fait peur un peu. Ça nous fait peur pour Édith Piaf et pour celui qu'elle va aimer ou qu'elle aimait, ou que celui qui va l'aimer, Édith Piaf. Elle a tant d'attentes par rapport à l'amour. Et je me dis que je n'aurais peut-être pas aimé être à la place de Marcel Cerdan. Quelques années plus tard, Barbara Streisand écrit une chanson qui s'appelle « Being Alive », être vivant. Et c'est l'histoire d'un homme qui tombe amoureux et qui dit que l'amour pour cette femme va le mener en enfer, droit en enfer. Mais il se dit que quand même, il va poursuivre sa route de l'amour, même si ça le mène à l'enfer, parce qu'il a besoin de ça pour se sentir vivant. « Being alive ».« Make me alive ». Et plus tard, avec les Bee Gees, « Staying alive ». Restez, vous vous souvenez, les Bee Gees, restez vivant. Et puis, nous avons les Beatles. Alors, je fais toute la panoplie de mes chanteurs préférés. Bon, Édith Piaf, peut-être un peu moins. Les Beatles qui nous disent, je ne sais plus en quelle année, « All you need is love. Love is all you need. L'amour, c'est tout ce dont vous avez besoin. Et tout ce dont vous avez besoin, c'est l'amour. C'est tout ce dont vous avez besoin et de rien d'autre. L'amour comble tous tes besoins, répond à toutes tes attentes, l'amour total, l'amour totalitaire presque. Alors vous me direz que ça date du siècle dernier et qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux... Non, il y a toujours aujourd'hui cette recherche effrénée, forcée presque, de l'amour. Il y a des séries qui en parlent. Il y a une série que mes enfants ont vue, « Comment j'ai rencontré votre mère ?»« How I met your mother ?» Et sur 8 saisons, on y voit Ted, le héros qui cherche l'âme sœur, la femme parfaite pour lui, qui va la combler entièrement. Il la cherche partout et il semble l'avoir trouvée puisqu'il le raconte à ses enfants. Mais en même temps, on ne la voit jamais. Une recherche effrénée de celle qui va combler ses attentes, qui va remplir tous ses besoins. L'amour comme une solution idéale, l'amour pour se sentir vivre, pour being alive. On est prêt à tout pour l'amour, on attend tout de l'amour, surtout dans notre culture qui pourrait se résumer. Ah oui, j'ai oublié ça. Ça, c'est les diapos de « Comment j'ai rencontré votre mère ». Notre culture qui pourrait se résumer par cette maxime « Tu n'es personne si personne ne t'aime. Alors j'ai lu dans un livre de Timothée Keller l'histoire d'une femme qui s'appelle Sally et qui a eu le malheur d'être née, super belle. Et dès l'enfance, elle a compris le pouvoir qu'elle pouvait exercer sur les autres par sa beauté. Et elle a eu sa beauté pour pouvoir manipuler les autres, mais au fur et à mesure, elle s'aperçoit que ce sont les autres qui utilisent sa beauté pour la manipuler. Et Sally est arrivée au point où elle se sent complètement insignifiante s'il n'y a pas un homme qui est amoureux d'elle. Et elle ne supporte pas d'être seule et donc s'arrange pour toujours être avec un homme, même si cet homme se comporte mal avec elle. Et Sally nous dit « L'amour est comme un alcool pour moi. C'est seulement quand je suis au bras d'un homme que je me sens moi-même. Même si le bras de cet homme la serre un petit peu trop fort et lui fait mal. » Alors pourquoi Sally permet-elle tout cela ? Parce qu'elle a fait de l'amour une sorte d'idole dans le sens où elle pense que tout ce dont elle a besoin, comme le disaient les Beatles, c'est de l'amour. Et dans ce sens, l'amour est un mirage ou une promesse de l'ombre qui déçoit assez rapidement, un mirage qui nous met à l'ombre, c'est-à-dire en prison, c'est-à-dire dans une sorte de dépendance, et on se retrouve sous la coupe d'un petit Dieu qui décide pour vous, qui vous amène là où vous ne vouliez pas aller, qui vous demande de faire des choses que vous ne vouliez pas faire. Nous avons un exemple dans la Bible, dans l'Ancien Testament, la première partie de la Bible, avec un type qui s'appelle Jacob. Alors je dis un type, mais c'est quand même un patriarche, quelqu'un d'important. On parle du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors Jacob était un homme très aimé de sa mère, qui s'appelait Rebecca, un petit peu à l'ombre de son père, qui s'appelait Isaac. Isaac étant le fils d'Abraham, quand même. Et Jacob fait tout pour se rendre odieux par rapport à sa famille, surtout par rapport à son père et à son frère. Il triche. D'ailleurs, Jacob, ça veut dire le tordu. Et il triche pour prendre la place de son frère Ésaü. Il lui vole son droit d'aînesse. Alors Jacob, suite à cela, s'enfuit de la maison. Sa vie est en ruine, il est en manque de reconnaissance, il est en manque de relations fortes. Et il est là, dans le désert, un petit peu vide de tout. Et là, il rencontre Rachel. Et le texte biblique nous raconte que lorsqu'il voit Rachel, alors il dit peut-être quelques mots, il l'embrasse et il se met à pleurer. Et il se met à sangloter. Jacob le tordu, Jacob le louvoyeur, se met à pleurer quand il rencontre Rachel. Alors, il tombe amoureux de Rachel, c'est évident. Il va voir le père de Rachel qui s'appelle Laban. Et voilà ce qui se passe. Ça se passe dans le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible. Et on nous parle de Laban qui avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait le regard tendre. Mais Rachel était bien faite et d'une grande beauté. Jacob s'était épris de Rachel. Et il dit à Laban, « Je te servirai pendant 7 ans si tu me donnes Rachel, ta fille cadette, en mariage. » Et Laban lui répondit, « Je préfère te la donner à toi plutôt qu'à un autre. » »« Reste chez moi. » Jacob travailla 7 ans pour obtenir Rachel et ses années furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Plusieurs éléments dans l'histoire nous montrent bien que Jacob est complètement épris par Rachel, par l'amour qu'il a pour Rachel, qui était, on l'a bien compris, très mignonne. Et il est prêt à travailler 7 ans pour pouvoir l'épouser, c'est-à-dire 4 fois plus que la dot habituelle. Mais pour lui, ça a passé très vite, parce qu'il l'aimait tellement. Et puis, au bout des 7 ans, il la réclame. « Donne-moi ma femme. » Et en fait, littéralement, « Donne-moi ma femme parce que je veux m'étendre avec elle. » Je ne vais pas vous faire un dessin. Mais en hébreu, l'expression, en fait, est très abrupte. Ça tranche avec la sobriété habituelle. Une expression qui nous parle du désir de Jacob, Un amour qui serait romantique, mais aussi sexuel, romantico-sexuel, et qui fait de Rachel l'objet de tous ses désirs, de ses attentes, de tous ses espoirs, parce que la vie de Jacob, depuis qu'il a quitté la tente familiale, est vide. Et il se dit qu'avec Rachel dans son lit et dans sa vie, tout va aller mieux pour lui. Avec Rachel, sa vie va prendre de la signification. Et en fait, cette démarche de Jacob est assez inhabituelle pour l'époque. En général, on se marie pour le statut social, mais Jacob se marie par amour, avec un amour total. Et aujourd'hui, il me semble qu'il y aurait beaucoup de Jacob aussi en recherche, beaucoup de Sally également, des hommes et des femmes qui mettent toutes leurs attentes dans une relation amoureuse, romantico-sexuelle qui viendrait combler tout le vide. Il y a un anthropologue, encore du siècle dernier, il s'appelle Ernest Becker, qui a gagné le prix Pulitzer, c'est l'équivalent du Goncourt aux États-Unis, et pour son livre « Le déni de la mort », qui nous parle de cette recherche de l'amour dans notre société sans Dieu, qu'on dit sécularisée. Voilà ce qu'il dit. Maintenant, lisez avec moi, « Maintenant que nous pensons que nous sommes tous ici par hasard, sans Dieu, et pour aucun but précis, comment va-t-on faire pour rendre nos vies un tant soit peu significatives ? Une des manières de trouver un peu de sens est par cette recherche forcenée de l'amour qu'il appelle la solution romantique. Et il continue en disant « Nous attendons de l'amour romantique et du sexe qu'il nous transcende, qu'il nous élève et donne un sens à notre vie maintenant qu'il n'y a plus Dieu pour le faire. » Et il continue en parlant du partenaire d'amour, de toutes les Rachel du monde pour Jacob, celui sur qui on focalise toutes les attentes. Et il va ajouter, puisqu'on a écarté Dieu, le partenaire devient quelque part un Dieu à travers lequel nous allons nous réaliser. Tous les espoirs, les attentes se trouvent focalisés en une seule personne, le partenaire, Marcel Cerdan. Rachel pour Jacob. Mais on peut se poser la question, ce partenaire sur lequel se focalisent toutes les attentes, va-t-il tenir toutes les promesses ? Va-t-il répondre à toutes les attentes ? Jacob y croit. Et il va travailler 7 ans pour avoir Rachel. Mais Laban, le calculateur, le père de Rachel, a bien vu quelle partie il pouvait tirer de ce jeune homme prisonnier de l'amour. Après 7 ans, Jacob vient chercher sa promise, vient chercher sa promesse, et elle arrive voilée. C'est la fête. Il boit un peu. Et il ne voit pas très bien. Il s'étend à côté de la femme qui est dans son lit. Et là, nous avons une phrase terrible. Le lendemain matin, Jacob se rendit compte que c'était Léa. Laban, le père, a donné sa fille aînée au lieu de donner sa fille Rachel, sa fille cadette Rachel, à Jacob. Et dans cette phrase, le lendemain matin, Jacob se rendit compte que c'était Léa. Nous avons toute la déception de Jacob, qui avait tout misé sur l'amour de Rachel. La dévastation de l'amour déçu, et nous avons un commentateur de la Bible qui notait pour ce verset que nous avons là en miniature la grande désillusion du jardin d'Éden avec Adam et Ève, la grande déception, le jardin perdu, le paradis perdu. Ce qui veut dire, avec tout le respect que l'on a pour Léa, et nous en parlerons tout de suite, que quelle que soit l'énergie que l'on mette pour combler ses attentes, quel que soit l'objet de ses espoirs et ses désirs, au matin, c'est toujours Léa, et c'est jamais Rachel. Et notre déception n'est pas occasionnelle, c'est pas juste une petite histoire comme ça, mais c'est une déception que j'appellerais existentielle, liée à l'existence. Quelque part, toutes les promesses de cette vie sont un peu de l'ombre. Je reprends une phrase aussi de C.S. Lewis, qui était professeur émérite à Oxford de littérature anglaise, qui est devenu chrétien en tant qu'adulte. et qui a écrit les Chroniques de Narnia et plein de livres qui ont influencé tout le monde anglo-saxon, qui est traduit en français, au moins une dizaine de livres de lui en français. Je vous invite à lire cet auteur. Et dans les fondements du christianisme, il écrit « La naissance ne nous a pas dotés de désirs dont la satisfaction soit impossible. Le bébé a faim. Eh bien, la nourriture est là. Le caneton désire nager, l'eau est là. Les hommes et les femmes éprouvent le désir sexuel, eh bien, le sexe est là. Et lisez avec moi. Et si je découvre en moi un désir qu'aucune expérience au monde ne puisse satisfaire, l'explication plausible ne serait-elle pas que je suis fait pour un autre monde ? Autrement dit, si nous vivons tôt ou tard une déception existentielle par rapport à tout ce que le monde peut nous apporter dans cette vie et l'amour dans cette vie, tout ce que nous peut nous apporter l'amour dans cette vie, est-ce que cela ne veut pas dire que nous sommes faits pour un autre amour, quelque chose de plus grand, quelque chose qui nous dépasserait et qui ne nous décevrait pas ? Voilà une question qu'elle est bonne, que nous pose C.S. Lewis. Et un peu plus loin, Lewis nous invite à ne pas confondre ce grand quelque chose auquel nous aspirons, ne pas les confondre avec les choses terrestres que nous avons à la portée de la main, alors que ce ne sont ces choses terrestres que des copies, que des échos, que des mirages de ce qu'il y a de plus élevé, de plus grand pour nous. Et il emploie le mot « mirage » que j'ai utilisé dans le titre, le mirage de l'amour. Et c'est là le problème de Jacob, c'est d'avoir fait d'un mirage l'objet de tous ses désirs, de toutes ses attentes. Non seulement il y a une énorme déception à la clé, mais aussi il y a des dégâts, pas si collatéraux que ça, parce que toute la famille de Jacob va souffrir de ce mauvais choix. Pendant des générations, il y aura du favoritisme, il y aura de la jalousie, il y aura des règlements de compte incroyables, pire qu'à Hockey Coral, vous vous en souvenez aussi. Et quand Sally nous parle d'addiction comme avec l'alcool, on sait tous les dégâts que peuvent créer les addictions. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette pub gouvernementale contre l'alcoolisme qui s'intitulait « Tu t'es vu quand t'as bu ?» Et on avait des petites vidéos et on voyait des gens qui étaient pas tout à fait sous, mais un petit peu sous, pas mal sous, qui disaient n'importe quoi, qui riaient très fort et qui étaient honteux de ce qu'ils avaient fait la veille. « Tu t'es vu quand t'as bu ?» Tu t'es vu quand tu fais de l'amour la solution à tous tes problèmes, tu vois dans quelle galère tu te mets quand tu concentres sur un partenaire d'amour toutes tes attentes. Il y a des dégâts. Et on peut aussi penser à tous les dégâts causés par un type plus âgé qui quitte sa famille pour se mettre avec une fille plus jeune, pour se réaliser, pour donner du sens à sa vie. Les dégâts causés quand on idolâtre l'amour. Et le plus grand dégât dans l'histoire, c'est Léa. Dans l'histoire de Jacob et de Rachel, c'est Léa. Cette fille, particulièrement non attractive. Et le texte nous dit que si Rachel était très jolie, Léa avait un problème dans les yeux. On l'a lu tout à l'heure. Elle avait un regard tendre. Une autre traduction parle de yeux délicats. Alors, on pourrait dire pour Léa qu'elle avait une coquetterie dans l'œil. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression. Ça veut dire, c'est un euphémisme pour dire qu'elle a un strabisme divergent particulièrement appuyé. Une coquetterie dans l'œil. C'est peut-être ce qu'elle avait, Léa. Ou peut-être ça veut dire que seuls ses yeux étaient bien faits et que le reste, hélas, n'était pas à la mesure de ses yeux. Bref, Léa n'était pas très attirante. Elle n'était pas belle comme Rachel. Elle n'était pas vraiment aimée. Et c'est terrible de se dire que Léa, c'est la fille que le père ne voulait pas et qui devient maintenant la femme d'un homme qui ne la voulait pas. Terrible d'être l'objet d'un père qui veut se débarrasser, qui veut s'en débarrasser pour devenir l'objet d'un homme qui n'en veut pas. Terrible aussi d'être la cause de la déception. Vous imaginez Léa le matin, quand Jacob découvre que ce n'est pas Rachel, mais que c'est que Léa. Léa le prend en pleine face. Quel dégât au niveau de son identité de femme, et pas seulement de femme, d'être humain. Et Léa va réagir. Elle veut gagner l'amour de ce mari qui ne veut pas d'elle. Et elle va faire ce qu'elle sait faire, en tout cas mieux que Rachel. Léa va faire des enfants. Ainsi, Léa devint enceinte et donna naissance à un fils qu'elle appela Ruben, car elle dit « L'Éternel a vu ma misère, à présent mon mari m'aimera. » Et elle va faire beaucoup d'enfants, 6 garçons, 1 fille, pour gagner l'amour de son mari. Et en fait, Léa est prise à son tour par cette promesse de l'ombre que l'amour va tout arranger pour elle. Elle rentre dans ce schéma, encore une fois, le même que celui que Jacob, mais d'une autre manière. Et c'est la même histoire. Léa pense que si elle gagne l'amour de son mari en lui faisant des enfants, elle va trouver tout son accomplissement en tant que femme et être humain. L'histoire recommence du mirage de l'amour. Mais ce qui est magnifique avec Léa, c'est qu'à un moment, quelque chose va arriver qui va nous sortir, qui va faire sortir cette histoire de la triste banalité des histoires d'amour qui se terminent mal en général, comme disait Lerita Mitsuko. Il va y avoir une interruption, un imprévu dans le scénario. Quand Léa met au monde son 3e fils, elle va s'écrier cette fois, je vérifie si... Oui, cette fois, je veux louer l'Éternel. Et elle s'adresse à Yahvé, c'est écrit en dessous, c'est Yahvé. Et non pas à Elohim, qui est un nom de Dieu, mais beaucoup plus générique. Et comment elle connaît ce mot Yahvé, si ce n'est peut-être par son beau-père Isaac, qu'il a entendu d'Abraham. Et Yahvé, c'est le nom de Dieu de la promesse faite à Abraham. Et elle emploie ce mot, et elle s'écrit à l'Éternel, Dieu de la promesse. Et elle ne mentionne pas non plus le nom de l'enfant, ni celui de Jacob. Cette fois, je veux louer l'Éternel. Je veux me tourner vers Dieu, lui seul, comme si elle mettait désormais tout son espoir en Dieu, et non plus en son mari, ni en ses enfants. Et on a l'impression que Léa, là, elle est en train de se retrouver, de retrouver sa vie. Jacob et Laban lui avaient volé sa vie. Ils ont fait d'elle une monnaie d'échange. Elle la retrouve, cette vie, en faisant confiance en Dieu, Léa. Et elle a sûrement eu l'intuition que Dieu avait fait quelque chose pour elle. Et c'était le cas. Et l'auteur du livre de la Genèse le savait également, parce que cet enfant s'appelle Judas. Sans S. Judas. Et 20 chapitres plus loin, 30 ou 40 ans plus tard, en Genèse 49, on apprend que c'est par lui, Judas, que le Messie, et quand on parle du Messie, on parle de Jésus-Christ, que Jésus-Christ viendra. Il est le lion de Judas. Et l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, nous étions dans la Genèse, premier livre de la Bible, et l'Apocalypse, dernier livre de la Bible, écrit dans les années 100, du 1er siècle après Jésus-Christ, nous parle de ce lion de Judas, nous parle de Jésus-Christ comme étant ce lion de Judas et qui ouvre les 7 sceaux, qui ouvre le livre de vie. 1200 ans, 1400 ans après, et je trouve que la Bible est super, est extraordinaire au niveau de sa cohérence, mais ce qui est frappant ici, c'est de voir que Dieu est venu vers cette femme que personne ne voulait, et il a fait d'elle l'ancêtre de Jésus, puisque Judas, c'est le fils de Léa qu'elle a eu avec Jacob. Et donc, dans les généalogies de Jésus, c'est Léa qui est là. Et non pas Rachel, la belle. C'est Léa, la délaissée, la non-aimée, l'objet d'une transaction, qui est la descendante ou l'ascendante de Jésus. Celle qui n'avait pas tout pour elle. Et ça, c'est typique du Dieu de la Bible. Et c'est pour ça que je l'aime, ce Dieu de la Bible. Parce qu'il choisit, parce qu'il est le Dieu de la grâce, le Dieu qui va vers celle qui n'est pas vraiment éblouissante dans la vie, qui n'a pas grand-chose à faire valoir, qui est en manque d'amour et de tout ce qui va avec, le Dieu de la grâce, et qui est aussi le Dieu de toutes les Léas du monde. Celle que personne ne voulait. Et il est le mari de toutes celles qui n'en ont pas. Il est le père et la mère pour tous ceux qui n'en ont pas. Il est venu aussi pour tous les Jacobs du monde en recherche d'amour et pour toutes les Salis du monde en panne ou en manque d'amour. Il est venu aussi pour toutes les Rachel et pour toutes les Salis du monde, celles dont la beauté les a plutôt desservies. Et ce qui est important aussi de noter dans cette histoire, c'est de voir que Jésus est vraiment de la lignée de Léa, parce que lui aussi, il est une personne que personne ne voulait. Dans Ésaïe, dans le prophète Ésaïe, écrit 700, 800 ans avant Jésus-Christ, il est dit qu'il n'avait que le Messie qui allait venir, il n'avait rien pour attirer le regard. Dans les évangiles, il est dit pour Noël, ce qu'on appelle Noël, c'est qu'il n'y avait personne, il n'y avait pas de place pour la famille de Jésus dans l'auberge. Personne ne les voulait vraiment. Et puis l'évangile de Jean nous dit, il est venu chez les siens en parlant de Jésus et les siens ne l'ont pas accueilli, ne l'ont pas voulu. Et puis sur la croix, Jésus dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Même Dieu ne le voulait pas. Mais c'est justement sur cette croix que celui qui semblait abandonné de tous a accompli le plus grand geste d'amour de tous les temps. Et il l'a fait pour toi, et il l'a fait pour moi, pour prendre sur lui tout ce qui nous séparait du véritable amour. Le lion de Juda, Jésus de Nazareth, le Christ, le Messie, est venu mourir sur une croix. Et je vous rappelle que la croix, c'est pas juste un symbole chrétien. À l'époque, c'était une exécution absolument infâme, où l'on mourait lentement par asphyxie, qui était réservée aux esclaves en fuite et aux criminels non romains, parce que même les criminels romains n'étaient pas exécutés sur la croix. Dieu a tant aimé le monde, et vous avec, et moi avec, qu'il a donné son Fils unique. Il a pris sur lui toutes nos déceptions existentielles, toutes nos déceptions d'amour, toute notre incapacité à aimer, tout cela pour nous faire entrer en relation avec cet amour qui change tout. Et quand on comprend que Jésus-Christ est le signe manifeste, énorme, extraordinaire de l'amour de Dieu pour nous, alors nous apprenons progressivement à nous détacher de cette recherche incessante de rédemption à travers le succès ou l'amour, ou à travers le succès dans l'amour. Nous arrêtons de chercher le salut parce que nous sommes déjà sauvés en lui. Nous arrêtons de prendre les autres pour des sauveurs, comme ses partenaires d'amour, parce que nous avons déjà un sauveur, Jésus, fils de celle dont personne ne voulait. Et ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Alors, comme Léa, Sally a pu récupérer sa vie. Elle est allée voir un psychothérapeute et il lui a conseillé de devenir financièrement indépendante pour se libérer peut-être de la dépendance de l'amour des hommes et aussi de se concentrer sur sa carrière pour retrouver l'estime de soi. Et Sally, elle a dit oui au premier conseil, atteindre l'indépendance financière. Mais elle n'a pas voulu suivre le deuxième conseil, celui de se concentrer sur sa carrière pour construire son estime de soi. Et vous savez pourquoi elle a refusé cette deuxième solution ? Parce qu'elle ne voulait pas que l'idole du succès par une belle carrière ne remplace tout simplement l'idole de l'amour dont elle voulait se débarrasser. Elle ne voulait pas simplement changer d'idole comme on change de pneu. Elle voulait être libre de toutes les idoles, de tous les mirages, de toutes les promesses de l'ombre, que ce soit le succès ou l'amour. Et il y a un passage dans la Bible qui a interpellé Sally, et je l'ai lu dans le livre, et je vous le livre, c'est Paul, l'apôtre Paul, qui écrit aux chrétiens qui sont à Colosse, c'est dans la Turquie actuelle. « De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre, car vous êtes morts. » Par rapport à toutes ces choses, vous n'en avez plus besoin. Vous n'êtes plus dépendant de ces choses. Et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Le jour où le Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez vous aussi avec lui. C'est le texte qui a touché Sally. Et c'est l'expression « Christ, votre vie ». Et elle a réalisé que ni l'amour des hommes, ni le succès ne pouvaient être sa vie ou son identité. Ce qui comptait, ce n'était pas ce que les gens pensaient d'elle, mais ce que Jésus avait fait pour elle. Ce qui comptait pour elle, c'était que sa vie était alors cachée en lui, comme le dit le texte aux Colossiens. Cachée en lui, sous sa protection, dans la sécurité de son amour infaillible et éternel, d'un amour qui fait toute la différence. Alors aujourd'hui, Sally, quand elle croise un homme qui semble s'intéresser à elle, elle dit « il est pas mal ». Il pourrait être un bon mari, mais il ne sera jamais toute ma vie. Parce que toute ma vie, elle est à Christ. Seul Christ est ma vie. Et cela a libéré Sally et cela lui a permis, comme Léa, de retrouver sa vie. Celle qu'un mirage lui avait volée. Alors Sally, elle a répondu pour elle-même à une grande question qui est posée à tous. Vers qui puis-je me tourner qui soit suffisamment beau, grand et élevé pour me permettre d'abandonner tous ces faux dieux et leurs promesses de l'ombre? Et la réponse, vous la connaissez, vers le Dieu de la promesse d'amour et de grâce pleinement réalisé en Jésus-Christ. Et j'aime bien cette phrase qui dit « L'amour n'est pas Dieu, n'est pas une idole, mais Dieu est amour. » C'est vers lui qu'il nous faut nous tourner, vers ce Dieu d'amour, pour retrouver la vie, la vraie. Amen.